Mes chers confrères, mesdames, messieurs, nous voici chargés d'une lourde tâche dans cette académie où les sciences dites dures sont bien représentées, coincées entre les sciences dures, les inscriptions et les belles lettres, place pour les sciences sociales. Et il y a quelques mois, j'ai dit, on fait un bilan, un demi-siècle de sciences sociales. Quelle aventure. Voilà. Ça me fait plaisir de me retrouver ici parce qu'il y a 30 ans, j'étais dans la salle et je recevais le prix Ozen pour ma thèse d'État. Et puis, si je reviens pour mon demi-siècle, il y a 50 ans, on était en 1968. Et en 1968, dans l'effervescence qui avait régné, on avait l'habitude de dire à quelqu'un qui prenait la parole, d'où parles-tu ? Alors quand même, d'où parle, d'où est-ce que je parle ? Je suis géographe, nul n'est parfait. Et puis, c'est-à-dire une discipline qui s'est longtemps cherchée entre sciences de la vie et de la terre d'une part, sciences sociales d'autre part. C'est un bon poste d'observation pour ce que je vais vous présenter. Et puis, un géographe qui a toujours regardé cette nébuleuse des sciences sociales depuis la province, même si j'ai trempé pendant quelques années dans un certain nombre d'opérations au plan national. Alors, donc, un regard décalé, géographe par rapport aux sciences sociales, la géographie sur le revendiquant du champ des sciences sociales désormais sans contestation, et puis de la province, ce qui irrite parfois un certain nombre de cénacles parisiens. Alors, j'aime bien reprendre ce petit extrait de texte que m'avait passé mon maître Bernard Kayser. C'est un dialogue extrait du nom de la Rose d'Umberto Eco. Mais alors, osais-je commenter, vous êtes encore loin de la solution. J'en suis très près, dit Guillaume, mais je ne sais pas de laquelle. Donc, vous n'avez pas qu'une seule réponse à vos questions. Also, si tel était le cas, j'enseignerai la théologie à Paris. À Paris, ils ont toujours la vraie réponse. Jamais, Guillaume. Mais ils sont très sûrs de leur réponse. Donc, je vous invite à pénétrer dans cette nébuleuse des sciences sociales, où vous verrez la place importante qu'occupent désormais l'histoire et la sociologie, la géographie, et puis tout autour une série de disciplines qui, en ajoutant le qualificatif social, à certains moments interfèrent avec l'histoire, la sociologie ou la géographie, l'anthropologie qui se dit sociale et la psychologie qui se dit sociale, etc. etc. Ces sciences sociales ont beaucoup évolué. Le tournant de 68 est quand même important. Elles se sont largement constituées, et on va y revenir, du fait de la demande sociale, comme on disait à l'époque, soit parce qu'à l'intérieur du monde de la recherche, il y avait des contestations pour faire évoluer ces sciences sociales, et parce qu'aussi, il y a eu des impulsions de l'extérieur. Alors, je vous rappelle quand même le contexte, je vais même aller plus loin que 68, remonter à la Libération. Dans un État qui devient omniprésent et omnipotent, qui s'occupe d'un peu de tout, un État qu'on a qualifié de providence, et qui a à mettre en œuvre ce qu'on appelle aujourd'hui les politiques publiques. La politique familiale, la sécurité sociale en 1945, le moment où on commence à baliser l'avenir avec le commissariat au plan, le fameux plan Monnet qui, chaque 5 ans, même souffle, essaie de baliser un peu l'horizon. Et puis il faut reconstruire la France. Donc en 1944, le ministère de la reconstruction de l'urbanisme. Et puis en 1950, le jeune Clovis Petit commence à parler d'aménagement du territoire, ce qui aboutira à la création de la Tatar en 1963. Alors cet État, il a besoin d'un certain nombre d'outils pour engager les politiques publiques. Ces compétences étendues, accompagnées, ce qu'on ne sait pas encore, qu'on appellera les 30 glorieuses. Donc on a créé un certain nombre d'institutions. En 1946, l'INSEE, problème de la statistique publique, mais qui doit être partagée partout avec une certaine indépendante. En 1945, on a inventé l'Institut d'études démographiques, là on touche au champ des sciences sociales, avec Alfred Sauvy. Et puis on a besoin de hauts fonctionnaires, donc c'est la création de l'ENA en 1946. Et puis l'État peut s'appuyer aussi sur des sondages d'opinion, puisque un sociologue, Jean Sezel, avait créé l'IFOP dès 1938, et on va le retrouver ensuite dans les problèmes qu'évoqueront la sociologie. Alors l'État à la libération, peut s'appuyer sur des héritages des années d'avant-guerre, en particulier tout ce qui s'est mis en place grâce à Jean Zé et autour de Jean Zé. Alors, dans le domaine de la recherche, j'ai rappelé quelques éléments, l'INRA en 1946, et puis le CNRS, hein, cet enfant posthume du Front populaire, qu'on crée en août 1939, mais qui commencera à démarrer qu'en 1944, sous la houlette d'un directeur Frédéric Jolie-Curie, et puis d'un Toulousain, Gaston Dupuy, qui présidera aux destinées du CNRS entre 50 et 57, le Napoléon du CNRS, comme disaient les mauvaises langues à l'époque, hein, mais qui, à Toulouse, nous a légué le microscope électronique et a été un ardent défenseur du décloisonnement des disciplines dans le CNRS. Alors l'idée, c'est qu'il faut favoriser la recherche au service de la croissance économique. Il faut promouvoir des disciplines nouvelles hors des séparations historiques académiques. La génétique, hein, je vois notre secrétaire perpétuel Michel Sicard qui a écrit des choses fort intéressantes là-dessus, décloisonner les disciplines, mais surtout les sciences exactes, les sciences dures à l'époque. Alors, importance de Mendès France, hein, et d'un de ses directeurs de cabinet, qui est l'historien Jean-Louis Crémier-Briac, qui est disparu récemment, qui a monté le colloque de Caen en 1956, où on a essayé de faire émerger justement des croisements de disciplines. Et puis De Gaulle, hein, qui reprendra tout ça, puisque Crémier-Briac a été chez Mendès France et chez De Gaulle, ou est revenu chez De Gaulle, où il avait été à Londres pendant la guerre. Et en 59, c'est l'affirmation d'une politique de la recherche avec la création de la Direction générale de la recherche scientifique et technique, rattachée au Premier ministre. Et De Gaulle vient à Toulouse, inaugure la boule de Rangueil, le microscope électronique, et dans le bâtiment du restaurant universitaire de la cité Daniel Fauché, prononce un discours qui mérite d'être lu et relu, parce que justement, il indique tout ce qu'on attend de la recherche. Alors il se fait un peu chahuter par les jeunes étudiants qui sont là, en leur disant « j'ai sans doute dans l'assistance, vous êtes devant un océan à conquérir, mais j'ai sans doute de futurs prix Nobel parmi vous. Hein. » Le discours est accessible encore en ligne sur le site de l'Institut de l'audiovisuel. Alors, à côté de ces sciences dures, il y a une demande qui commence à s'esquisser par tous ceux qui ont en charge le développement économique et social, le plan, l'aménagement du territoire, etc., envers ce qu'on appelle les sciences sociales, pour mieux comprendre et accompagner donc les sociétés en mutation. Alors, il faut bien voir que les sciences sociales, on avance dans un terrain beaucoup plus incertain, puisque vous allez le voir, ces sciences sociales sont encore mal dessinées, que celui qui cherche en sciences sociales est aussi dans la société, à quel degré d'objectivité peut-il aller. On est dans un contexte de guerre froide, hein, on a donc des luttes importantes idéologiques et politiques, on regarde d'un mauvais œil un certain nombre d'organismes de recherche qui sont financés par les fonds américains, du plan Marshall, et puis il y a là-dedans la décolonisation, hein, et donc les sciences sociales, les chercheurs en sciences sociales sont très vite impliqués, en particulier au moment de la guerre d'Algérie, dans ces affaires-là. Donc, sciences sociales, hein, comprendre, analyser la société avec des outils scientifiques en quête d'une certaine objectivité, tout en étant acteur et impliqué, c'est pas toujours évident, et les pouvoirs publics ont parfois hésité. Alors, comment répondre à cette demande de sciences sociales de la part de l'État ? Eh bien, à mon avis, hein, en cherchant un petit peu, hein, en retravaillant sur ces questions, il y a quatre endroits où on fait de la recherche en sciences sociales. L'université, je vais y revenir, l'université napoléonienne qui a été réformée à la fin du XIXe siècle par Louis Liard. Le Collège de France, c'est en général l'endroit où on met où les personnes en fin de carrière, ou les malpensants, hein, ceux qui ne sont pas tout à fait dans la ligne, on les envoie au Collège de France, comme ça ils n'encombrent pas l'université par leurs innovations. Il y a aussi une école créée par Victor Duruy en 1868, l'école pratique des hautes études, qui aura un rôle majeur dans le développement des sciences sociales ensuite. L'Institut d'études politiques, hein, de Paris, hein, on a bien l'ENA, mais il y a aussi l'Institut d'études politiques en 1945 qui a pris la succession de l'École libre des sciences politiques. Et puis, en province, hein, pour former ces cadres administratifs, pour observer la vie politique, etc., on crée les IEP. Hein, notre IEP de Toulouse a été créé en 1948, on vient de fêter les 70 ans. Voilà. Donc il y a des lieux où on fait de la recherche en sciences sociales. Alors, Ce qui m'a retenu, c'est que un des lieux essentiels où se fait la recherche en sciences sociales sont les facultés des lettres. Elle s'appelle encore faculté des lettres. Des facultés des lettres pour lesquelles la domination parisienne, la Sorbonne, hein, c'est pour ça que j'ai donné la citation d'Humberto Eco, est la référence. Le rêve, c'est de finir sa carrière professeur à la Sorbonne, même si dans mon temps on a été exilé à Clermont-Ferrand ou ailleurs. Hein. C'est vrai, c'est là que se soutiennent pratiquement toutes les thèses, les grandes thèses de doctorat vital. Mais cette université, soit à Paris, soit en province, elle est divisée en facultés qui sont jalouses de leur domaine de compétences. Alors, les facultés des lettres, les facultés des sciences, les facultés de droit et les facultés de médecine. Hein. Et le cloisonnement est extrêmement important. Ce sont des facultés où, pendant longtemps, on n'a pas fait de recherche. Hein. On commence à en faire vraiment. Et l'exemple de Paul Sabatier est tout à fait révélateur. À la fin du 19e siècle, dans le domaine des sciences sociales, il y a des ressources en matière de sciences sociales, mais des coopérations qui sont difficiles, voire impossibles. Hein. La géographie, qui est rattachée aux facultés des lettres, a bien essayé de coopérer avec une faculté de sciences pour avoir des contacts dans le domaine de la géographie physique. Alors, un des grands patrons de la géographie française, Emmanuel de Martone, est là. Il est licencié de sciences, il a des compétences dans les deux. À Toulouse, c'est Henri Gossel, pour la botanique, qui sera très lié avec la géographie, mais dans la fac de sciences. Et d'ailleurs, le labo sera labellisé au CNRS sous le nom de géographie, hein, du temps de Gaston Dupuy. L'histoire, elle a hésité longtemps, elle est restée souvent longtemps une discipline poussiéreuse, et elle cherche des relations avec la géographie humaine. Au lieu de faire une histoire bataille, on essaie de s'interroger comment peut-on savoir comment vivaient les gens il y a 2 siècles, 3 siècles, 4 siècles. Est-ce qu'on a des sources? On veut abandonner l'histoire bataille, travailler dans la longue durée, et donc les historiens vont se rapprocher. C'est là que commence à s'amorcer un champ de sciences sociales, de l'économie, de la sociologie et d'anthropologie. En fait, ce sont deux historiens qui ne sont pas bien en cours. Ils sont nommés à Strasbourg après la guerre de 14, et ce sont deux noms célèbres, hein, Marc Bloch et Lucien Febvre, qui vont créer, hein, une nouvelle façon de faire de l'histoire, qu'ils diffuseront à partir d'une revue, les Annales d'histoire économique et sociale. Donc ça, c'est un élément extrêmement important, et ils ne veulent pas faire cette histoire qu'on enseigne à la Sorbonne, qui est l'histoire événementielle, qui est l'histoire politique essentiellement. Donc comment faire de l'histoire économique et sociale sinon en coopérant? Donc il y a une véritable école des Annales qui va naître, qui va avoir une large audience, privilégiant la longue durée, et après-guerre, la revue, hein, deviendra Annales, Économie, Société, Civilisation. Voilà, elle existe toujours. Et deux noms, hein, vont porter cette idée d'avancer dans le champ des sciences sociales, dans la coopération. Lucien Febvre, qui ne sera jamais élu à la Sorbonne, hein, et Fernand Braudel, qui ne sera non plus jamais élu à la Sorbonne, puisqu'il s'est fait battre. Hein, ses esprits malpensants, ils finiront tous les deux au Collège de France. Voilà. Et Braudel et Febvre ont quand même une idée, c'est que si on ne peut pas faire avancer dans une configuration de sciences sociales l'histoire nouvelle qu'ils souhaitent, eh bien on le fera ailleurs. Alors ils obtiennent en 1947, à l'école pratique des hautes études, où on ne fait que des séminaires de recherche, et au bout d'un même temps on ne dirige pas de thèse, on ne soutient pas de thèse, ils obtiennent une sixième section dont on parlera beaucoup, sciences économiques et sociales, dans lesquelles ils vont faire se côtoyer, coopérer, des représentants de toutes les sciences sociales, hein, sans distinction, de façon à ce que la recherche se fasse. On est directeur de recherche à l'école des hautes études en sciences sociales. Alors, c'est une opposition brutale. Braudel va avoir l'idée que peut-être on pourrait créer entre les facultés des lettres, de sciences, de médecine et de droit, des facultés de sciences sociales. Et il a un projet, hein, que j'ai retrouvé, qu'il a publié sous un autre nom, en disant on pourrait créer des facultés de sciences sociales, on piquerait un bout aux sciences, un bout aux lettres, etc. Aussitôt, il prend le bas du combat, et dès que le projet de Braudel est connu, en 1959, il y a un décret qui sort, hein, qui va conforter les anciennes facultés dans leur champ disciplinaire. Les facultés des lettres vont devenir facultés de lettres et sciences humaines, et les facultés de droit et de sciences économiques. Et donc la séparation, elle est quand même très visible, elle le restera très longtemps, puisque j'évoquais 68, une des conséquences de cette cohabitation physique entre la faculté des lettres de Toulouse et la faculté de droit a été de séparer le bon grain de l'ivraie et d'établir une grille au sein du jardin que nous partagions. Donc ça montre qu'il y a des séparations qui sont quand même fortes. Donc on réussit, Brodel ne réussit pas. Et donc, l'enseignement de l'économie qui est très utile dans les facultés de lettres et de sciences humaines pour comprendre la société, à la fois dans le temps, dans l'espace et dans la géographie, n'est abordé dans les facultés des lettres que par le biais de l'histoire économique et sociale. C'est Marc Bloch qui est élu à la Sorbonne, puis son successeur, qui est venu du droit, lui, qui est formé au droit, à l'économie par le droit, Ernest Labrousse, qui dominera l'histoire française pendant très longtemps. Alors, les sciences sociales, en fait, sont représentées dans les facultés des lettres et de sciences humaines par deux disciplines étroitement associées, l'histoire et la géographie. Et la sociologie n'apparaît pas complètement marginalisée dans l'entre-deux-guerres, enseignée éventuellement comme une branche de la philosophie. Ce sont des agrégés de philo qui enseignent la sociologie, éventuellement, alors que cette sociologie se développera hors de l'université dans les années 50 et des débuts des années 60, au CNRS et dans la 6e section de l'école pratique. Mais Raymond Aron, qui après un détour par le journalisme est revenu pour enseigner la sociologie, agrégé de philo, est élu très difficilement à la suite d'une campagne mémorable, à la Sorbonne en 67. C'est la première chaire vraiment qui apparaît. Et il faudra attendre 59 pour voir la sociologie faire son entrée dans les facultés des lettres, dans le champ des sciences sociales, puisqu'en 59, Aron obtient que soit créée une licence de sociologie. Le problème, c'est qu'on n'a personne pour enseigner la sociologie à ce moment-là. Donc petit à petit, les sociologues entrent dans l'institution et on peut se demander pourquoi ils ont été complètement marginalisés dans la recherche universitaire, dans l'ensemble des sciences sociales. Alors, il faut remonter au début du siècle, dans les années 90-1910, où la sociologie avait pignon sur rue, même présente à la Sorbonne, autour d'Émile Durkheim, qui est, que tout le monde considère aujourd'hui comme le père fondateur de la sociologie moderne. Il y a eu des débats nombreux entre les sociologues, les durkheimiens, les historiens, les géographes, la bagarre a été drôlement rude avec les géographes, et puis, ce sont les historiens et les géographes qui l'ont emporté, tout simplement. Pourquoi ? Eh bien, parce que l'évolution de des missions des facultés de lettres a fait qu'ils ont eu une responsabilité, former par le biais de la préparation au concours de l'agrégation d'histoire et de géographie les futurs enseignants de lycée. Donc, ils avaient un public. Il y avait besoin d'enseignants et de chercheurs à l'université. Les sociologues, on n'enseigne pas la sociologie dans l'enseignement secondaire, donc pas de clientèle. Et donc petit à petit, la sociologie va se trouver complètement marginalisée et pour exister, devra trouver d'autres formes. Alors, ce qui est intéressant, c'est que dans ces facultés des lettres et de sciences humaines, on voit se dessiner comme ça la configuration des sciences sociales autour de l'histoire et de la géographie, les choses ne se passent pas tellement bien. Les géographes vivent très mal d'être considérés dans la dépendance de l'histoire. Quand on était agrégé d'histoire et de géographie, on avait fait trois quarts d'histoire et un quart de géographie. Et donc les géographes auront à cœur, eux qui développent une géographie humaine qui a un rayonnement international, une école française de géographie, d'obtenir une agrégation spécifique de géographie. Alors c'est pas très glorieux, mais enfin l'objectivité m'oblige à dire que c'est le régime de Vichy et Jérôme Carcopino qui a, grâce à toute une série de tergiversations, créé une agrégation de géographie pour les hommes. Les historiens n'ont jamais lâché pour les femmes, puisque l'agrégation féminine d'histoire et de géographie a été maintenue pour les femmes, et une partie d'histoire de l'art. Et ça n'a disparu qu'au début des années 70. Alors, ce qui est intéressant, c'est de voir que dans ce champ des sciences sociales, il y a des bagarres extrêmement fortes, et que c'est l'agrégation et les programmes d'agrégation qui pilote absolument les contenus des enseignements. C'est en fonction des programmes d'agrégation qu'on fait les enseignements de licence, qu'on fait l'initiation, et ce sont les mandarins, hein, le mot est utilisé, c'est-à-dire les patrons, qui en fait ont la main sur l'agrégation, sur le contenu des enseignements, sur la recherche, et cette recherche se faisant depuis la fin du 19e siècle, dans un premier temps par le diplôme d'études supérieures que le ministre, que le l'historien Ernest Lavis a imposé comme année, qu'on appellerait aujourd'hui le master 1 de maîtrise, à tous les futurs agrégés. D'abord d'histoire et ensuite ça a été examiné partout. Donc le futur enseignant du secondaire avait une initiation à la recherche avant de passer l'agrégation. Il lui fallait le diplôme d'études supérieures. Alors les patrons, bien sûr, qui siègent dans le jury d'agrég, sont sollicités par les candidats pour obtenir un sujet qui est conforme à ce que le patron pense ou à la recherche telle qu'il veut la développer. Et puis alors, il y a le morceau de bravoure, le doctorat ès lettres et sciences humaines, même si en 58, on avait créé un doctorat de troisième cycle, le doctorat ès lettres et sciences humaines, c'est un doctorat qui demande presque toute une vie. Hein. C'est une recherche individuelle, solitaire, sous la houlette d'un patron auquel on fait allégeance, qui contrôle plus ou moins, et je dois être des derniers spécimens d'avoir soutenu un doctorat ès lettres et sciences humaines, sans limitation de durée. Hein. Le doctorat d'État, c'est le chef-d'œuvre d'une vie, hein, j'ai mis là, une thèse principale, hein, volumineuse, très volumineuse, et il y avait même une thèse secondaire jusqu'en 1968, et au début du siècle, il fallait qu'elle soit rédigée en latin. Vous comprenez le parcours du combattant que ça représente. Beaucoup de ces thèses imprimées avant la soutenance sont toujours des références. C'est le chef-d'œuvre. Alors on connaît la grande thèse de Pierre Chonu, Séville et l'Atlantique, en 1960, où il a exploré dans l'esprit de l'école des annales toute une série de données qu'il a recopiées, qu'il a traitées. C'est le début du traitement de ces séries statistiques pour voir les échanges entre Séville et l'Atlantique, 3400 pages publiées, plus 3900 pages d'introduction méthodologique et de tableaux statistiques. Je me sens petit, moi la mienne elle fait 1400 pages en 84, mais en fait c'est quand même pas mal. Hein. Bon, et la soutenance est publique, c'est un événement mondain, vous êtes reconnu par vos pairs qui vous égratignent un petit peu. Si vous avez la mention très honorable, vous avez la possibilité de succéder au maître quand il voudra bien laisser la place. Si vous n'avez pas la mention très honorable, les portes de l'université vous sont fermées. Et donc on a un contrôle du contenu des sciences sociales par l'institution qui se fait de cette façon. Et Fernand Braudel, malgré sa grande thèse novatrice, la Méditerranée et le monde méditerranéen au temps de Philippe II, n'a jamais été recruté à la Sorbonne. Parce qu'on considérait qu'il portait ombrage au grand patron de la Sorbonne à l'époque, qui, dans ce domaine-là, était Pierre Renouvin, auquel il avait prêté main forte pour un séminaire d'agrégation, mais comme il avait trop d'étudiants qui venaient enthousiasmés par la novation de Braudel, lorsque le poste a été disponible, il a été battu par quelqu'un qui n'a laissé aujourd'hui aucun nom à l'histoire. Alors la soutenance de thèse, c'est un exercice extraordinaire, ça dure toute une journée, il faut soutenir la thèse secondaire, il faut soutenir la thèse principale, et c'est là qu'on règle ses comptes. Alors Alain Touraine, le sociologue, et ces sociologues qui ont fini, pour entrer dans l'institution universitaire, de faire des thèses, certains n'ont pas voulu. Touraine a raconté sa thèse, sociologie de l'action en 1965, dans la salle Bouillard de la Sorbonne, dont son collègue Mandras a dit qu'elle prit la violence d'un psychodrame incontrôlé où les membres du jury transformés en picador paraissaient vouloir mettre à mort l'impétrant pour lequel ils avaient pourtant chacun de l'estime, de la sympathie, voire de l'affection. Personne n'est sorti indemne de cette incroyable et inoubliable séance. Touraine a raconté qu'il avait déprimé, il est parti au Chili dans les mois qui ont suivi, suite à cette opération. Alors vous voyez qu'il se contrôle de l'institution, se contrôle des mandarins, on contrôle les contenus, on ne travaille pas sur ce qu'on veut, c'est le patron qui vous oriente, en l'occurrence là c'était Raymond Aron. Et puis, lors de la soutenance, eh bien, vous avez intérêt à faire vos preuves. Voilà. Et c'est en fonction de cette thèse qui est publique, quand vous êtes reconnu par vos pairs, que vous pouvez éventuellement candidater. Alors si vous êtes bien reconnu dans la ligne scientifique de l'université, de la faculté ou du patron pouvait espérer lui succéder à la Sorbonne. Sinon, on vous enverra un peu en purgatoire. Alors, en général, en géographie, on vous envoyait à Lille. Hein. Et puis, au bout d'un certain temps, vous reveniez pour prendre le poste à la Sorbonne. Si vous étiez vraiment mal pensant, on vous envoyait à Clermont-Ferrand. Vous restiez un peu plus longtemps. Mais voilà, il y a ce contrôle de la production scientifique qui est extrêmement important. Alors, comment voulez-vous innover dans tout ça, sans avoir effectué ce parcours du combattant? Et quand vous avez passé 20 ans ou 25 ans à faire une thèse, est-ce que vous avez encore les moyens d'innover si vous voulez finir votre carrière dans un poste honorable? Alors, candidat découragé, tout ce qui va l'innover, on a beaucoup recruté de jeunes dans les années 50 et 60, assistants, maîtres assistants, qui ont renoncé à poursuivre leur recherche. Et ils sont allés voir à l'école pratique des hautes études où on leur laissait un peu plus de champ libre, ou alors ils n'ont plus fait de recherche du tout, tout simplement, produisant de temps en temps un article dans une revue. Bourdieu, par exemple, qui a été l'assistant de Raymond Macron à la Sorbonne, n'a pas voulu soutenir sa thèse. Pas moins fini professeur au Collège de France. Mais bon, là, il était en dehors du circuit universitaire. Voilà, on comprend donc, je vous ai raconté un petit peu tout ça, parce que ces rigidités universitaires s'opposent à des pratiques pluridisciplinaires, de croisement des disciplines, et on ne répond pas, on ne peut pas répondre aux injonctions de la puissance publique qui souhaite, pour aménager les villes, pour faire de l'aménagement du territoire, pour comprendre les évolutions sociales, des travaux beaucoup plus courts, beaucoup plus rapides, et donc effectivement l'université, c'est pour ça que j'avais appelé ce parquet en rendez-vous manqué par les facultés de lettres, on n'est pas au rendez-vous de la demande sociale. Alors après 68, j'ai dit c'est l'âge d'or des sciences sociales. Enfin, on va arriver enfin à décloisonner un petit peu. Alors, on ne parle pas de l'effervescence qui a régné dans le champ des sciences sociales à l'université de Vincennes. Où là, c'était la liberté totale qui effrayait beaucoup un certain nombre de responsables politiques voyant cette université autour des sciences sociales comme un foyer d'agitation et de remise en cause de la société. Donc, ce qui me semble avoir fait bouger beaucoup le système dans les années 60, c'est la sociologie. C'est la sociologie. La sociologie qui a fait ses armes grâce au CNRS, avec beaucoup de créations de postes, de chargés de recherche. Elle a répondu à des sollicitations extraordinairement diverses, sans faire des thèses nécessairement, sur des sujets émergents. Alors, ce sont des gens qui sont célèbres, Friedman, Touraine, Crozier, Mendras, Chambard-Delove, à partir des enquêtes, ils s'interrogent sur des problèmes de société contemporains qui demandent des éclairages, le travail, la ville. Qui s'occupe de la ville? Aucune discipline ne traite de la ville en particulier. Michel Crozier, la sociologie des organisations, la sociologie de l'éducation, etc., etc. C'est vraiment, grâce souvent à l'école pratique des hautes études, quelque chose de tout à fait nouveau. Et la sociologie se dit apte à répondre à la demande. Alors elle le fait grâce à l'appui du CNRS, puisque à l'université, elle a du mal à s'imposer. Elle privilégie le travail en équipe, ceux qui sont les premiers centres de recherche en sociologie, mais souvent, et alors ça c'est un élément important, en développant une démarche militante. Au fond, on fait de la recherche en sociologie sur la société, mais un peu au service d'une cause. Et la distance par rapport à cette cause, la distance critique, bon, parfois, quand on relit les textes aujourd'hui, on se dit que, effectivement, là, ils s'engageaient un petit peu fort. Ça ne veut pas dire que les autres disciplines ne s'engageaient pas, mais ce n'était pas aussi évident dans les productions. Et donc, la sociologie a fini par s'imposer, au point qu'on a imaginé, on a craint à un moment, et les historiens en particulier, Ferdinand Braudel, qu'elle ait des visées hégémoniques dans le champ des sciences sociales. Donc, création de la licence de sociaux en 59, essor important dans l'université, malgré les réticences d'autres disciplines, ce qui explique que cette sociologie, quand on lui crée des postes, on va l'orienter plutôt vers la toute jeune université de Nanterre plutôt que vers la Sorbonne, en particulier autour du sociologue Henri Lefebvre, ce qui inquiète beaucoup Georges Pompidou. Alors j'ai retrouvé un texte de Pompidou publié à posteriori en 1974, où il règle son compte aux sociologues, et où on voit que la demande sociale adressée aux sociologues, elle ne correspond pas à ce que ces sociologues lui fournissent. L'étincelle a jailli en Nanterre, milieu propice silencieux à la contestation, faculté créée hâtivement parce qu'il fallait courir au plus pressé dans un environnement hélas déplorable et consacré à des enseignements particulièrement destructeurs. Je parle de la sociologie notamment. Il s'agit là d'une science balbutiante dont beaucoup de spécialistes ont d'autant plus d'assurance que leurs connaissances sont plus incertaines et bien souvent en France au moins mal assimilées. Comme les sophistes de Platon, les scolastiques du XVe siècle ou les médecins de Molière, ils cherchent leur autorité, leur prestige dans un jargon spécifique, inaccessible aux profanes, et appliquent leur intelligence et les détours de leur esprit à critiquer une société où, de fait, ils n'ont aucune utilité clairement définie. Voilà, bon, ils sont habillés. Hein. C'est vraiment un plaidoyer dont s'empareront les tenants de la tradition dans les autres sciences sociales, je pense à l'histoire ou la géographie. Ce texte, je crois, n'est pas inintéressant. Donc, cette éruption de la sociologie dans les universités littéraires, désormais on a une licence, on peut faire un doctorat dans cette université, a été quand même consacrée par la création d'un enseignement tout à fait nouveau, où les sociologues vont se retrouver, avec des débouchés de l'enseignement secondaire, ce qu'ils n'avaient jamais eu à la différence de l'histoire et de la géographie, c'est-à-dire la création d'une série du baccalauréat, sciences économiques et sociales, la série B, c'est Alain Peyrefitte qui signe le décret, première épreuve en 68, série aujourd'hui devenue ES. En fait, on a quelque chose de très important que n'ont jamais accepté les économistes, purs et durs, qui eux sont des facultés de droit et de sciences économiques, considérant que l'économie qu'on fait dans ces séries-là, c'est une économie articulée à la sociologie, trop militante, et les programmes qu'on est en train de réécrire pour la série S ont fait l'objet, il y a quelques jours, dans Le Monde, de plusieurs articles de mise au point, en particulier un signé par un sociologue, Christian Baudelot, mais aussi Thomas Piketty, l'économiste. Cet enseignement n'est pas le produit de gauchistes et cervelés des années 60, comme le laissent entendre ses adversaires. Mais croyez bien que les économistes, économètres, soucieux de mondialisation pure et dure, n'acceptent pas cet enseignement tel qu'il est fait dans l'enseignement secondaire. En fait, avec cette création d'un bac de sciences économiques et sociales, on rejoint le projet de Prodélien. Et c'est là qu'on sent que ça va coincer un petit peu entre ces sociologues qui s'imposent un petit peu dans le discours médiatique comme organisateurs des sciences sociales, et puis les historiens qui avaient bien ce projet d'organiser, mais qui n'y sont jamais arrivés. Alors Brodel a fini par obtenir quand même que la sixième section de l'école pratique des hautes études, dont il avait obtenu la création d'une science économique et sociale en 1947, soit autonome administrativement, se détache de l'école des hautes études en sciences sociales, elle est autorisée, cette section désormais, à délivrer des doctorats d'État, et elle obtiendra même, grâce à des fonds américains, ce qui la fera quand même regarder avec un certain nombre de critiques de la part d'une mouvance un peu anti-américaine, de la création d'une maison des sciences de l'homme, et en 1984, l'école des hautes études en sciences sociales est devenue un grand établissement, au même titre que ce qui restait de l'école pratique des hautes études, que le Collège de France. Donc il y a cette émulation qui se fait et qui va complètement renouveler, bien sûr, grâce à ces coopérations interdisciplinaires que l'université n'arrive pas à faire, qui va développer le développement de problématiques nouvelles dans le champ des sciences sociales. Donc, on s'émancipe des rigidités de l'université, interdisciplinarité. L'école des hautes études a largement contribué à la recherche, à l'évolution de la recherche en sciences sociales, au point que cette nouvelle façon de faire de l'histoire s'est imposée avec des gens comme Jacques Le Goff par la suite, Emmanuel Roy Laturie, qui ont investi de nouvelles problématiques, la longue durée, le temps long, toute une série de domaines qu'on n'abordait pas antérieurement, et on voit bien comment cette articulation entre l'économique et le social est devenue féconde. Elle est quand même, au fur et à mesure que le temps passe, que les grands de référence au marxisme s'estompent, pour les historiens de cette nouvelle histoire, l'idée que, dans l'évolution des sociétés dans le passé comme aujourd'hui, ça n'est pas uniquement des déterminismes économiques qui sont là, hein, qui conditionnent l'organisation sociale, les pratiques sociales, mais qu'il y a bien d'autres choses, hein, en particulier qu'on va chercher vers l'anthropologie, vers la sociologie, etc., que ces sciences, que ces sociétés, il faut les expliquer à l'aune d'un certain nombre d'autres éléments que sont les mentalités, que sont les phénomènes religieux, que sont la permanence d'un certain nombre de structures. Et j'aime bien ce qu'a écrit un historien, Michel Gauvel, spécialiste de la Révolution française, mais qui a dit que lui, il s'inscrivait dans cette démarche des sciences sociales, mais que lui, il était passé de la cave au grenier. Donc il a d'abord exploré les fondements économiques de société dans le passé, et puis à force d'étudier, il a vu que les fondements économiques n'expliquaient pas un certain nombre de phénomènes, et donc il a fallu aborder l'étude des mentalités, des religions, des représentations, et même le champ politique que l'école des Annales avait un moment négligé. Voilà comment, hein, petit à petit, grâce à l'apport des différentes disciplines, les historiens de l'école des Annales qui ont désarmé Pignon sur Rue, chose qu'ils n'ont pas pu avoir dans les institutions, ont pu s'imposer. Le territoire de l'historien, pour reprendre la formule d'Emmanuel Leroy-Ladurie, s'est élargi considérablement. Ils ont eu une très large audience. C'est eux qui ont dominé le champ des sciences sociales, une très grande audience auprès du public cultivé. On passait à la télé, on passait à Apostrophe. On avait des tirages qui faisaient rêver tout le monde grâce à l'appui d'un éditeur qui est Pierre Nora, chez Gallimard, qui a aidé à la diffusion. Et on sait le succès surprenant de cet ouvrage Montaillou, village occitan de Leroy-Ladurie, qui est resté dans les mémoires. Enfin, c'est un best-seller comme aucune science sociale n'en aurait rêvé, mais bien d'autres éléments, bien d'autres travaux comme ceux de Pierre Goubert ou autres sont là. Alors c'est l'âge d'or des sciences sociales. Au fond, on a une audience médiatique, la recherche nourrit le débat public, relayé par des médias, je pense au Nouvel Observateur, François Furet et autres. Donc effectivement, la recherche en sciences sociales attire, hein, et on est même encouragé à poursuivre dans l'interdisciplinarité pour aborder des champs nouveaux. Et puis, j'en viens à ma dernière partie, si je puis dire, dernier éclairage, alors que tout semblait aller bien, dans ces années 70-80, avec même une grande revue de vulgarisation des travaux scientifiques, qui est la revue d'Histoire, qui est créée en 76-77, mais tout se grippe. Et on a le sentiment, quand on regarde la production des 20 dernières années, que, effectivement, ces sciences sociales sont en repli, sont plus frileuses, sont moins lisibles, elles se dispersent. Un de mes collègues historiens, François Dos, a écrit un livre dans les années 90, L'histoire en miettes. J'avais même commis une étude sur la géographie où je montrais cette dispersion, cet éclatement de la géographie qui touchait à tout. Et on ne savait plus trop ce qu'on faisait. Pourquoi ? Bon, d'abord, il y a la crise économique. Dans les années de croissance, bon, on a le sentiment que les choses vont progresser vers le progrès, vers une amélioration, on prolonge les tendances. Là, bon, il faut bien reconnaître que la crise, personne ne comprend ce qui se passe, même les grands économistes et les grands politiques. Jacques Chirac qui disait en 76 aux sidérurgistes, voyant leur carnet de commandes fondre, rassurez-vous, continuez à investir, je vois le bout du tunnel. Donc effectivement, la recherche scientifique n'est pas à même d'accompagner là par ces travaux une réflexion sur ce qui se passe. On est dans le brouillard à ce moment-là. Et puis, il y a aussi l'effondrement des grands modèles théoriques. Les 89, la chute du mur de Berlin, donc de quel côté faut-il regarder ? Donc, on commence aussi à être interpellé par ce qui se passe dans la société. Les émeutes urbaines, la montée des phénomènes religieux, un certain nombre de revendications dans le domaine sociétal, comme on dirait aujourd'hui. Et petit à petit, les sciences sociales prennent conscience que, quelles que soient les méthodologies qu'elles avaient employées jusque-là, elles ont du mal à rendre compte d'une société dont la caractéristique est la complexité. Alors comment rendre compte de la complexité ? Eh bien, c'est désormais, hein, et je crois que c'est un point important, cette complexité que je regarde un territoire, une société, un phénomène de société, je peux la mesurer, parce que j'ai de nouveaux outils. Autrefois, quand on faisait de la recherche, quand on faisait ses grandes thèses de doctorat d'État, on consacrait à peu près 90% de son temps, alors quand ça porte sur une vingtaine d'années, c'est pas mal, à accumuler de l'information sur le sujet, soit par le biais d'enquêtes, soit en allant dans les archives, dans les fameuses séries de registres paroissiaux, ou des registres qu'avait exploité Pierre Chenut, ou les plans terriers de le roi Ladurie pour expliquer les paysans du Languedoc au XVIIe siècle. Les géographes, ils allaient sur le terrain. Hein. Ils allaient interroger, regarder le terrain directement, soit à partir de coups, à partir de cartes ou de photos aériennes. Le géographe, il a les pieds dans la boue. Moi, on me disait, comme tu veux faire de la géographie, ça s'apprend par les pieds. Hein. Ce qui nous faisait regarder avec beaucoup de suffisance par les historiens qui, eux, semblaient, par les sociologues qui, eux, semblaient détenir le... qui semblait détenir un certain nombre de vérités. On a aujourd'hui accès à toutes ces données qu'on passait des années à accumuler. Moi, j'ai passé des jours et des jours à recopier des bulletins de recensement dans les caves de l'INSEE, dans les archives. Aujourd'hui, tout ça est numérisé. Vous avez des bases de données. Vous appuyez sur un bouton. Vous allez avoir ce que vous cherchez. Ces données, vous les transformez grâce à des logiciels en cartes. Vous faites jouer les seuils. Hein. Et donc, ça a complètement changé les conditions de travail dans le domaine des sciences sociales. On est submergé par les données. Et alors, autrefois, on accumulait. Et puis, quand on avait accumulé, on faisait des typologies, on classait. Aujourd'hui, non. Hein. On a les données disponibles, y compris les images satellitaires, etc. Donc, la démarche de recherche a complètement changé. Aujourd'hui, on n'a plus à accumuler. On a des données, donc la première question qu'on a à se poser, qu'est-ce que je cherche ? Ça rappellera des choses aux gens des sciences exactes. Donc définir une problématique, poser des questions et définir une méthodologie. Un de mes collègues dans les années 90, à Paul Sabatier, disait, j'en ai marre quand je dis que je suis chercheur, un journaliste ou un grand public, on me dit, alors qu'est-ce que vous trouvez ? Oui, j'en ai marre. Donc maintenant, quand on me demande ce que je fais, je dis, je suis trouveur. Comme ça, en me posant enfin la bonne question, qu'est-ce que je cherche, hein? Mais c'est tout à fait nouveau. C'est l'apparition de l'histoire problème, de la géographie problème, et ces problèmes que les sciences sociales ont essayé d'éclairer, ces problèmes, ils sont au fond posés par la société du moment. Les émeutes dans les banlieues, les problèmes des migrations, de l'origine sociale des gens qui vivent dans les banlieues et qui se trouvent marginalisés, à quoi doit-on les imputer ? Est-ce que c'est à leurs origines ? Est-ce que c'est à leur culture ? Est-ce que c'est à des phénomènes d'exclusion de type économique, etc. ? J'ai les moyens d'y répondre. Hein. J'ai les moyens d'y répondre. Encore faut-il que je pose les bonnes questions dès le départ et que je définisse une bonne méthodologie. Donc on a une série d'investigations nouvelles possibles, dans des domaines qu'on n'imaginait pas, des recherches de plus en plus pointues. Je pense aux travaux de l'historien Alain Corbin sur les odeurs, le miasme et la jonquille, sur les bruits. Hein, comment est-ce qu'on peut avoir des sources dans ce domaine-là ? On en a. Hein, sur l'analyse des pratiques sociales ou territoriales, comment les gens se déplacent, comment ils passent d'un logement à l'autre, comment ils se déplacent au quotidien. Et en fait, toutes les disciplines sciences sociales vont s'attacher à des sujets beaucoup plus pointus, beaucoup plus précis. Et, permettez-moi quand même un regret, c'est que l'abandon de la thèse d'État avec la loi Savary en 1984, on a soutenu celle qui avait été déposée avant, mais l'abandon de la thèse d'État nous privera des grandes synthèses d'autrefois au profit de thèses dites de nouveau régime, qu'on fait beaucoup plus rapidement et qui, bien entendu, changent complètement la façon de travailler. Où sont les grandes synthèses d'antan, hein ? Quand vous demandez à un collègue de faire un cours sur le XVIe siècle, autrefois Benassar s'y collait, il vous faisait un cours magistral sur le XVIe siècle. Hein, désormais, il dit « Ah, moi, je vous ferai le XVIe siècle dans l'Italie du Nord ou dans telle province ou dans telle autre, mais je ne vous fais pas une synthèse. Hein. » Ça, c'est quand même un élément important, ce qui fait que très souvent, cette évolution de la recherche plus pointue a évolué. Alors, on a des problématiques aussi dans ce champ des sciences sociales qui sont plus militantes. Moi, ce qui me frappe beaucoup dans la production récente, c'est que les représentants des sciences sociales, y compris l'histoire, essaient de répondre à des problèmes de société, hein, des problèmes d'actualité, les banlieues, les inégalités, l'immigration, les héritages de la colonisation. Faut-il enseigner ou non la colonisation, les bienfaits ou les méfaits de la colonisation? Même le législateur a essayé de s'en mêler à un moment pour nous dire ce qu'il fallait enseigner. Alors, y a-t-il, avec ce morcellement de la recherche, hein, sur des objets très pointus, avec des techniques de plus en plus perfectionnées qui supposent un maniement d'outils mathématiques pour lesquels les chercheurs, toujours formés dans les facultés de lettres, ne sont pas à même, eh bien, y a-t-il une pratique plus collective? J'en suis pas persuadé. Il y a des équipes, mais où les gens sont juxtaposés. Hein. Le CNRS est très content, il a un bel organigramme. Je ne suis pas persuadé qu'il y ait des travaux, des échanges importants et de nouvelles coopérations entre les disciplines. Ça vient. Et ce qui m'intéresse, c'est de voir que peut-être les meilleures coopérations qui s'esquissent en sciences sociales avec la montée de l'environnement sont des coopérations qu'on n'avait jamais tentées avec les sciences de la nature, de la vie et de la terre. Hein. Je viens de voir un certain nombre de productions sur le climat en particulier, qui associe la démarche géographique, ceux des spécialistes des villes ou autres. Et donc, tout cela se fait de façon rapide, hein, avec des thèses courtes, sans prendre le recul, hein, par rapport à ces phénomènes tels que Brodel le souhaitait dans la longue durée. On est tenté de réagir à l'événement. Et alors, quelques questions quand même, parce que toutes ces données que les sciences sociales peuvent traiter aujourd'hui, sous la forme de cartes, sous la forme de statistiques, etc., elles sont aussi accessibles au grand public, et de plus en plus. Hein. Cette information, le citoyen lambda, suppose qu'il peut y accéder, et qu'à partir de ces informations, eh bien, il peut avoir des arguments pour intervenir dans le débat public. Alors, on a le sentiment aujourd'hui, on le voit encore récemment, que chacun arrive avec ses données, mais moi, monsieur, c'était des données de l'INSEE, etc., on peut se passer de l'expertise scientifique. Et donc, il y a quand même un rôle important pour les sciences sociales à dire, attention, les problèmes qu'on étudie avec ces données, voilà comment on les traite, voilà comment je les traite. Alors, c'est complexe, c'est difficile à expliquer, et ça ne correspond pas à la demande actuelle. Hein, ma thèse en 180 secondes, mon analyse dans un tweet. Hein. Non, il faut du temps pour expliquer la complexité, il faut une méthodologie, et on ne répond pas à ce moment-là à la pression, soit de l'institution, souvent, soit la pression médiatique, hein, ou de journalistes qui téléphonent, voilà, comment vous pensez ceci? Alors, vous parlez une minute et demie, on garde 40 secondes. Alors, de deux choses l'une, ou on y va, ou on n'y va pas. Hein. Si on y va, on risque d'être caricaturé. Si on n'y va pas, ça veut dire que ce qu'on fait en matière de recherche sérieuse en sciences sociales, c'est perdu pour la collectivité. Hein. Ça n'aura pas l'audience que l'on souhaite parce qu'il faut du temps. Hein. Il faut du temps pour expliquer tout ça. Alors, j'entends souvent critiquer Wikipédia. Hein. Bon, oui, mais pourquoi on n'écrit pas nous dans Wikipédia en tant que représentants des sciences sociales? C'est quand même une responsabilité importante. Et alors, j'ai pour terminer, pris deux citations. Alors, j'ai pris ni des géographes, ni des sociologues, ni des historiens. J'ai pris Edgar Morin, hein, l'homme touche à tout, qui dit à force de sacrifier l'essentiel pour l'urgence, on oublie l'urgence de l'essentiel. Et ça, je crois que c'est quand même important dans les débats qui nous agitent. Et puis, notre prix Nobel, quand même, Jean Tirole, hein, qui s'ouvre. Hein, vers les sciences sociales, c'est intéressant ce qu'il écrit aujourd'hui, qui disait une démocratie sans experts, puisque le citoyen est expert, donc on n'a plus besoin du chercheur en sciences sociales, court à la catastrophe, car elle laisse le champ libre à toutes les croyances. Hein. Et donc les élèves, désormais, vous disent, ah, mais moi j'ai trouvé sur Internet, voilà, mon opinion c'est que. Hein, sans montrer que, effectivement, sur le sujet qu'il aborde, il y a d'autres façons de procéder. Voilà quand même pourquoi ces sciences sociales aujourd'hui dispersées ont du mal à s'imposer dans la vie publique. Les acteurs publics, ils veulent des réponses immédiates, des solutions immédiates. Hein, comment on règle les problèmes des carrefours quand ils sont bloqués et autres. C'est pas le temps des sciences sociales. Et je me demande si aujourd'hui, il n'y aurait pas un gros effort à faire de la part des sciences sociales dans des sujets importants comme la ville, l'urbain, etc. Et alors très souvent, on a des choses invraisemblables qui apparaissent, c'est-à-dire des gens qui apparaissent comme des experts. Alors je vais envoyer un pied pour finir quand même. On nous parle beaucoup d'un géographe, Christophe Diuli, qui a certainement fait une maîtrise autrefois de géographie, et qui a inventé le concept de France périphérique, hein, l'opposition entre les métropoles et puis la France périphérique. Je vous mets au défi de trouver un travail rigoureux, scientifique, lui permettant de justifier cette vision dualiste. Mais alors, médiatiquement, c'est triomphe. Hein. Tous les politiques, tous les journalistes vont opposer la France des métropoles à la France des périphériques. J'aime vous dire que de la précarité, quand on travaille sérieusement, il y en a autant dans le cœur des métropoles que dans les périphériques. Voilà, donc attention là, dérapage, mais bon, quid des sciences sociales, comment les reconstruire, les réorganiser pour répondre aux défis de la société. J'ai tenu mon temps.